Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa Opondé.
Attaque ciblée contre les déplacés à Djougou en Ituri. La MONUSCO condamne et appelle à l'arrêt immédiat de ces violences. Et en réponse à ces actes, la mission onusienne annonce l'instauration des patrouilles des casques bleus. Affaire détournement présumé des 15 millions de dollars du trésor public. Le comité laïque de coordination exige la suspension de toutes les personnes impliquées pour permettre à la justice de faire son travail sans entrave. La visite du chef de l'État congolais en Belgique est une réussite sur le plan diplomatique. L'affirmation est de Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège. Vous l'entendrez dans ce journal puisqu'il est notre invité. Bonjour à tous. La MONUSCO condamne la récente série d'attaques contre des civils, des adultes et des enfants déplacés à Djougou dans la province de l'Ituri. Dans un communiqué rendu public hier, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, David Maclachlan-Carr, a appelé à l'arrêt immédiat des violences dans le territoire de Djougou pour assurer la protection des plus de 20 000 déplacés. Des patrouilles de casques bleus ont été mises en place. Shindani nous en parle.
Pas moins de 6 attaques menées de nuit sur des civils ont eu lieu ces 2 dernières semaines. Ceci témoigne d'une volonté délibérée et organisée de s'en prendre aux déplacés et aux plus vulnérables, estime Maclachlan-Carr, chef de la MONUSCO par intérim. La nuit de mercredi, les déplacés concentrés autour de la base temporaire de la MONUSCO à Roé ont été attaqués, entraînant la mort d'une femme et d'un enfant. Les assaillants ont été repoussés par l'intervention des casques bleus. Mais dans leur fuite, ils ont attaqué le village voisin de Koli, faisant 2 morts avant d'attaquer celui de Pati où ils ont tué 9 personnes. Des patrouilles de casques bleus ont été mises en place pour la protection de plus de 20 000 déplacés qui ont trouvé refuge autour de la base temporaire de la MONUSCO déployée à Roé après une nouvelle vague de violence au mois de juin, indique la mission onusienne dans un communiqué. Des enquêteurs de la police scientifique des Nations Unies et du bureau conjoint aux droits de l'homme se sont rendus sur place avec les procureurs de la justice militaire de la République démocratique du Congo. Ces attaques doivent être condamnées avec la plus grande fermeté par tous et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y mettre fin, souligne Maclachlan-Carr. La MONUSCO dit soutenir activement les autorités provinciales de l'Ituri pour restaurer le calme et l'ordre dans les territoires de Djougou. Elle appelle tous les leaders communautaires à appuyer leurs efforts.
Restons en Ituri où la présence des groupes armés dans le sud-ouest du territoire d'Irumu et la résistance de la population aux mesures de riposte ralentissent les efforts de lutte contre Ebola. Ces défis ont été présentés à David Gosley par l'équipe de riposte à l'épidémie d'Ebola et ses partenaires. Le coordonnateur des Nations Unies en matière de lutte contre Ebola a profité de son séjour en Ituri pour visiter le centre de traitement d'Ebola de Komanda et de Mambasa. Le point avec Jean-Claude Louki qui se trouve à Mambasa.
La délégation du coordinateur des Nations Unies en matière de lutte contre Ebola s'est d'abord rendue au centre de traitement d'Ebola de Makayanga, où il a visité ce site qui héberge à ce jour 23 malades d'Ebola. Sur place, il s'est imprégné du fonctionnement de cette structure médicale, les difficultés rencontrées dans la prise en charge des patients. Toujours à Komanda, la délégation a échangé avec différents partenaires sur les défis rencontrés. Il s'agit entre autres de la présence des groupes armés dans la forêt d'Idou qui empêche à l'équipe de riposte d'accéder à cette zone. Dans les territoires de Mambasa, où cette délégation a poursuivi sa mission, ce sont les mêmes défis qui sont évoqués. L'équipe de riposte a fait état de la résistance communautaire. Certaines personnes véhiculent de fausses informations en déclarant que cette maladie n'existait pas dans cette contrée. D'où l'hostilité à cette équipe de riposte qui éprouve d'énormes difficultés pour accéder aux malades. Tous les intervenants sont restés unanimes pour continuer la sensibilisation en vue de dissuader certains sceptiques pour arriver à éradiquer cette maladie. De Mambasa, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Ensemble, disons non à l'impunité et à l'impuissance de la justice. C'est l'appel lancé hier à Kinshasa, au Congolais, par le comité laïque de coordination CLC. Cette structure de l'Église catholique exige la suspension à titre conservatoire de toutes les personnes impliquées dans les présumés détournements de 15 millions de dollars américains du trésor public afin de permettre à la justice de faire son travail sans entrave. Le CLC demande par ailleurs la démission de tous les juges de la Cour constitutionnelle Écoutez à ce sujet le professeur Isidore Ndaiwel, membre du CLC, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le CLC voudrait commencer une grande croisade à partir du 1er octobre contre la corruption, l'impunité et l'impuissance de la justice. Et nous demandons deux choses importantes. La première, c'est la suspension à titre conservatoire de toutes les personnalités impliquées dans la disparition des 15 millions de dollars de la République. Et nous voulons que la justice fasse réellement son travail. La deuxième exigence du CLC, c'est que les pouvoirs publics prennent des dispositions pour obtenir la démission des 9 personnalités qui constituent actuellement la Cour constitutionnelle, pour des raisons évidentes, connues de tout le monde, et donner la chance à cette institution de pouvoir retrouver son crédit.
Commémoration hier à Kinshasa de la mort d'une dizaine de Congolais tués le 19 septembre 2016 alors qu'ils réclamaient la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques dans les délais constitutionnels. 3 ans après cet événement malheureux, le parti politique est décidé à organiser une marche pacifique de son siège de l'avenue de l'Enseignement jusqu'à la paroisse Saint-Joseph de Matongé dans la commune de Calamon, ici à Kinshasa. Une messe a été dite en souvenir des disparus et c'était l'occasion pour le parti de Martin Fayulu de demander aux Congolais d'instaurer la culture de célébrer les martyrs. C'est ce que dit Serge Oello, cadre de l'ECIDE, également au micro de Jean-Désiré Kanyama et Raphaël Kouazi.
Ça s'est très bien passé avec l'encadrement de la police. Nous sommes arrivés à l'église Saint-Joseph de Matongé. Une messe a été dite et on a honoré, parce que nous devons élever la culture d'honorer des morts, le président Martin Fayulu, qui prône l'humanisme dans notre parti ECIDE, a tenu à être présent pour honorer ces vaillants filles et fils du pays qui ont perdu leur vie et ils sont des martyrs de la démocratie. Le parti ECIDE a demandé à ce que cette journée soit célébrée parce qu'on doit élever la culture d'honorer nos morts. Ils ne sont pas morts pour rien. La mort et la vie humaine est sacrée. Et quand ils sont fauchés juste parce qu'ils réclamaient la tenue des élections, cela veut dire l'effectivité de la démocratie. Nous tenons à ce que cette journée du 19 septembre soit célébrée chaque année partout où le Congolais se retrouve.
Un appel similaire à celui de l'ECIDE a également été lancé hier à Kinshasa. Le mouvement Organisation citoyenne pour le changement et les partis politiques Convention des démocrates pour un ordre nouveau, Condor en sigle, invite le président de la République à convoquer une table ronde de réconciliation nationale. Objectif, permettre aux Congolais de se réconcilier et dédommager les familles qui ont perdu leurs parents dans la lutte pour l'alternance pacifique du pouvoir en RDC, comme les familles de la activiste Rossi Mukindi ou de l'aspirante religieuse Thérèse Kapangala, tous deux morts pour avoir réclamé cette alternance. Gauthier Mputu, président du Condor, est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous félicitons la première alternance que nous avons vécue. Mais cette alternance, soyez-en sûr que nous l'avons acquise aussi auprès de sang. Alors, si nous n'identifions pas ces crimes, nous ne les réparons pas. Nous ne disons pas qu'il faut réparer ça totalement, mais il faut un symbolique, quoi. Afin que des orphelins, deux veuves, doivent avoir un regard rassurant à la nation.
En même temps, on reproche aux acteurs politiques d'aimer trop des dialogues pour se partager les postes et en réalité, le peuple est toujours abandonné.
C'est que nous demandons comme table ronde, c'est pour faire entendre les voix des uns et des autres, pour demander à ceux-là qui ont mal fait de ne plus revenir. Pour certaines personnes qui sont retenues dans des prisons pour n'avoir rien fait. Il faut voir aussi réhabiliter ces gens-là. Voilà, ce n'est pas vraiment pour partager le pouvoir.
Parlons environnement. Dans ce journal, l'incendie qui a ravagé une partie de l'Amazonie pourrait se produire en RDC si l'on ne prend garde. C'est la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable qui tire cette sonnette d'alarme. La RDC dispose d'un massif forestier important et les pratiques qui ont conduit à l'incendie en Amazonie sont également courantes en RDC, prévient la même organisation. La coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable a lancé la alerte hier à Kinshasa. Dorothée Missenga, coordinatrice de cette structure, exprime ses craintes au micro de Daniel Tambizoni.
Nous sommes un village planétaire et c'est la forêt amazonienne qui fournit de l'oxygène. aussi toute la planète. Et à part cette forêt-là, c'est la forêt du Congo, des bassins du Congo, notamment la forêt équatoriale, ici au niveau de la République démocratique du Congo. Quand ça brûle en Amazonie, il y aura des impacts sur toute l'étendue du territoire international. Et en l'occurrence, tous les jets seront braqués sur les forêts de la République démocratique.
C'est ce que vous craignez?
Oui, c'est ce que je crains et ça aussi une mesure d'alerte. Nous avons saisi les causes. C'est la déforestation. Il y a la coupe illégale du bois et la coupe aussi autorisée par le gouvernement. Il y a l'agriculture itinérante surbrûlée. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets chez nous.
L'invité.
Félix Tshisekedi a clôturé hier sa visite en Belgique. Cette visite est une réussite sur le plan diplomatique. En tout cas, c'est ce que pense le professeur Bob Kabamba, enseignant à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Il en veut pour preuve le fait que Félix Tshisekedi a été reçu par les plus hautes autorités belges et européennes. Le professeur Bob Kabamba est l'invité de ce journal. Il répond aux questions d'Alain Rung.
Professeur Bob Kabamba, bonjour.
Oui, bonjour.
À l'issue de cette première visite officielle du président de la République, Félix Tshisekedi, en Belgique, globalement, peut-on dire que la RDC a donné un signal fort?
Il faut d'abord regarder l'objectif de la visite officielle donc, du président Tshisekedi. Dans un premier temps, je pense qu'il voulait redorer les relations qu'il y avait entre la RDC et la Belgique, d'arriver à avoir des relations harmonieuses. En cours de cette visite aussi, l'impression que ça donne que le président de la République donc, est venu en Belgique, surtout à la recherche de deux choses. D'une part, essayer de séduire les entrepreneurs belges pour qu'ils reviennent investir à nouveau au Congo, puisque vous savez qu'il y a depuis quelques années, il n'y a plus beaucoup d'entrepreneurs belges qui sont intéressés par le Congo. C'était une façon pour lui de faire vraiment du lobbying pour qu'il y ait des entrepreneurs et qu'ils puissent arriver. Dans un deuxième temps, au cours de cette visite, il y a eu aussi la question militaire, surtout renforcer le secteur de la réforme et la formation et l'encadrement de l'armée. Alors, ce que ça donne comme impression, c'est que Félix Tshisekedi est quand même venu en Belgique pour essayer, dans la mesure du possible, de consolider son pouvoir au Congo, mais en accent beaucoup plus sur des leviers économiques et des leviers sécuritaires.
Sur le plan des relations internationales, par rapport à l'Union européenne et au reste de la communauté internationale, qu'est-ce que ça représente, cette visite du président Tshisekedi, selon vous?
Vous devez savoir que lorsque l'on parle de reconnaissance par rapport à un régime, par rapport à un pouvoir, c'est toujours l'international, en fait, qui reconnaisse un pouvoir, qui donne cette reconnaissance au niveau d'un régime politique. Et donc, de ce fait, il avait beaucoup voyagé en Afrique, notamment en Angola, Afrique du Sud, etc., pour essayer justement de consolider cette reconnaissance. Et ici, avec la visite en Belgique, c'est une façon de rechercher, encore une fois, à consolider cette reconnaissance, non plus seulement sur le continent africain, mais aussi maintenant sur le territoire européen. Et il va prolonger aussi pour les États-Unis, ce qu'il avait déjà fait, essayer de consolider aussi son régime en ayant effectivement cet appui de l'extérieur qui permet de conforter sa présidence.
Peut-on dire qu'il a réussi?
En fait, on ne peut pas dire vraiment qu'il a réussi, puisqu'on doit attendre les résultats de ce qu'il a fait comme demande, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau économique et au niveau de la coopération militaire. Mais néanmoins, en termes d'image, puisqu'il est venu en visite officielle et qu'il a quand même rencontré les plus hautes autorités de Belgique, mais aussi les autorités de l'Union européenne. Et donc ça, effectivement, on peut dire que diplomatiquement, effectivement, c'est une réussite de pouvoir arriver à autant de jours et avec un programme qui a été le sien, de pouvoir arriver à être reçu par toutes les autorités. Et ce qui prouve manifestement qu'il y a cette volonté de reconnaître et d'appuyer et de consolider son régime.
Vous vivez en Belgique, vous connaissez du bout des doigts la politique belge qui a ses réalités. Le gouvernement belge actuel est en train d'expédier les affaires courantes. Peut-on espérer, professeur, que toutes les bonnes intentions manifestées entre la Belgique et la RDC vont se concrétiser dans les prochains jours ou rester lettre morte?
C'est une bonne question que vous posez, puisque vous devez savoir que lorsque l'on parle de gouvernement au niveau belge, c'est toujours une coalition. Il y a toujours une coalition qui se met en place, plusieurs partis politiques qui se mettent ensemble et qui définissent ensemble le programme qui va être mis en œuvre. Alors, comme on ne sait pas très bien, plus ou moins, la configuration que va avoir ce gouvernement. Et donc, il serait beaucoup plus trop tôt de dire que ces demandes vont rester lettre morte. On sera attentif, bien entendu, de voir quels sont les partis politiques qui vont être autour de la table. Et lorsque ces partis politiques seront autour de la table, on essayera certainement de regarder leur note gouvernementale s'il y a un chapitre spécifique sur le Congo, et on essaiera de voir ce qu'il y aura de manière concrète dans la proposition du programme gouvernemental.
Merci, professeur Bob Kabamba.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.